Corinne Atlan, traductrice.
Il y a quelque chose de très kafkaïen chez Murakami. Et ce Kafka disait, je crois, enfin, dans ses lettres, quelque chose comme il vivait au-dessus d'un trou d'ombre. Et Murakami a cette dimension-là totalement, c'est-à-dire qu'il plonge vraiment au plus profond de lui-même. Et moi, je trouve que c'est la plus belle chose que peut nous apporter la littérature.
Ça peut pas faire de mal.
Il y a cette dimension-là, et à la fois, il y a une dimension très claire, j'allais dire, parce qu'en japonais, on dit akarui, ça veut dire c'est clair, donc comme le jour, la clarté du jour, et en même temps, ça se dit pour dire de quelqu'un qu'il est gay, et l'opposé de ça, c'est kurai, donc c'est sombre, hein, au même sens figuré, comme en français aussi, et je trouve que chez Murakami, il y a vraiment ces deux côtés.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Qu'est-ce que je dois faire alors ? Je réitérais ma question. Danser, répondit l'homme mouton. Continue à danser tant que tu entendras la musique. Tu comprends ce que je te dis ? Danse. Continue à danser. Ne te demande pas pourquoi. Il ne faut pas penser à la signification des choses. Il n'y en a aucune au départ. Si on commence à y réfléchir, les jambes s'arrêtent. Et si tes jambes s'arrêtent de danser, moi je ne pourrai plus rien faire pour toi. Tous tes liens disparaîtront, pour toujours. Et tu ne pourras plus vivre dans ce monde-ci, de ce côté. Tu seras aspiré par le monde de là-bas. C'est pour cela qu'il ne faut pas t'arrêter. Même si tout te paraît stupide, insensé, ne t'en soucie pas. Tu dois continuer à danser en marquant les pas et dénouer peu à peu toutes ces choses durcies en toi. Ce n'est peut-être pas encore trop tard. Utilise tout ce que tu peux, fais de ton mieux. Il n'y a rien dont tu doives avoir peur. Ça arrive à tout le monde. Tu as l'impression que tout va de travers, que le monde entier se trompe, et tu t'arrêtes de danser. Je levai les yeux et contemplai à nouveau son ombre gigantesque sur le mur. Mais il n'y a rien d'autre à faire que danser, poursuivit l'homme mouton, et danser du mieux qu'on peut, au point que tout le monde t'admire. Si tu fais ça, alors peut-être pourrais-je t'aider moi aussi. Voilà pourquoi il te faut danser. Danser tant que la musique durera. Danse. Danse tant que la musique durera. Tel est l'étrange oracle prononcé par l'homme mouton, sorte d'avatar du Minotaure, guidant les hommes dans l'inquiétant labyrinthe qu'est devenu le monde moderne. Cette créature de l'ombre, qui a le pouvoir de relier les personnes entre elles, par-delà la vie et la mort, est l'un des personnages fétiches de son auteur, Haruki Murakami. Auteur de la Ballade de l'impossible, adapté au cinéma par le réalisateur Tran Anh-Hung, Murakami est l'écrivain japonais contemporain le plus lu dans le monde. Parmi ses dernières œuvres, la saga 1Q84 s'est vendue à plus d'un million d'exemplaires en France. Malgré le succès, l'auteur reste discret et fidèle au tempérament de ses héros, des hommes entre deux âges, en état de crise passagère, flirtant entre désinvolture et sentiment d'impuissance. Né en 1949 à Kobe, de parents professeurs de littérature, Murakami se passionne pour les romanciers américains et traduit les plus grands noms, Fitzgerald, Chandler, Carver. Amoureux de culture pop, il devient patron d'un club de jazz dans les années 70. C'est à l'âge de 29 ans qu'il découvre sa vocation. Lors d'un match de baseball, il décide soudain de tout plaquer pour devenir écrivain. Depuis, il se lève chaque matin à l'aube et s'adonne à ses 5 heures d'écriture quotidienne. Au Japon, on lui reproche son style international, loin de l'esthétique nippone. Après avoir vécu en Europe et aux États-Unis, il revient vivre dans son pays natal, mais revendique ainsi son indépendance, je cite, « Je ne suis ni occidentalisé, ni traditionnaliste, juste un homme libre. » Ce soir, entrons dans l'univers singulier de Murakami, donc, qui a l'art de jongler entre le rêve et la réalité, la vie et la mort, le quotidien et le fantastique, l'humour et le désespoir. Comme son narrateur, au caractère rêveur et mélancolique, suivons la mystérieuse injonction de l'homme mouton et ouvrons ce roman au titre dionysiaque « Danse, danse, danse ». Découvrons le sentiment d'étrangeté qui se dégage dès la première page du roman. Comme souvent chez Murakami, le narrateur n'a pas de nom. Journaliste freelance, en manque d'inspiration, comme nous l'apprendrons plus tard, cet homme de 34 ans est en pleine crise existentielle. Depuis que sa femme l'a quitté 4 ans plus tôt, il n'a plus goût ni au travail ni aux rencontres. Les êtres semblent traverser sa vie comme des fantômes. Pourtant, la nuit, le souvenir d'une certaine femme vient le hanter. Je rêve souvent de l'hôtel du Dauphin. Dans mon rêve, je fais partie de l'hôtel. Le bâtiment, déformé, s'allonge interminablement en une sorte de prolongation de mon être. On dirait un immense pont surmonté d'un toit. Et ce pont qui m'englobe s'étend de la préhistoire aux confins de l'univers. Il y a aussi quelqu'un qui pleure dans mon rêve. Quelque part, quelqu'un verse des larmes pour moi. Je perçois nettement les battements de cœur et la douce chaleur de cet hôtel dont je ne suis qu'une infime partie. Je rêve. Mais je me réveille et je me demande où je suis. Je me pose réellement la question « Où suis-je ?» Question totalement inutile, car je connais la réponse depuis le début. Je suis dans ma vie. Voilà où je suis. Ma vie. Un appendice à ce sentiment d'existence réelle nommé « moi ». Un état, des événements, des circonstances qui se sont mis à exister en un rien de temps, en tant qu'attribut de moi, alors que je ne me rappelle même pas m'en être particulièrement rendu compte. Il arrive qu'il y ait une femme endormie à côté de moi. Mais la plupart du temps, je suis seul. Seul avec le grondement de l'autoroute sous mes fenêtres, un fond de whisky dans le verre à mon chevet et des particules de poussière dans la lumière hostile ou peut-être simplement indifférente du matin. Parfois, il pleut. Quand il pleut, je reste dans mon lit à rêvasser. S'il reste un fond de whisky de la veille dans mon verre, je le bois. Je regarde les gouttes de pluie tomber du rebord du toit et je pense à l'hôtel du Dauphin. J'étire lentement bras et jambes pour vérifier que je suis bien moi-même, que je ne fais partie de rien. Mais je me rappelle encore la sensation de rêve. Et je perçois un bruit lointain et calme de sanglots. Quelque part au fond des ténèbres, quelqu'un pleure pour moi. Je rêve. L'hôtel du Dauphin existe réellement dans un quartier pas très reluisant de la ville de Sapporo. J'y ai séjourné toute une semaine il y a quelques années de cela. Non, essayons de nous montrer plus précis. Il y a combien d'années ? 4 ans. 4 ans et demi exactement. Je n'avais pas encore 30 ans. J'ai dormi dans cet hôtel avec une fille. C'est elle qui avait choisi. « Allons dormir là », avait-elle dit. Elle avait même dit « Il faut qu'on aille dormir dans cet hôtel ». De toute façon, si elle ne l'avait pas exigé, jamais je n'aurais été dormir dans un endroit pareil. Dans ce petit hôtel minable, nous n'avions pas vu défiler beaucoup de clients. C'était un drôle d'hôtel. Il me faisait penser à un organisme arrêté en cours d'évolution. Une régression génétique. Un organisme atteint de malformations. N'importe qui pouvait voir qu'il y avait quelque chose de pas normal. Tout ce désordre accumulé peu à peu allait finir par atteindre un point de saturation. L'hôtel risquait d'être aspiré par une tornade dans un avenir tout proche. Cela sautait aux yeux. C'était vraiment un hôtel miteux. Miteux comme un chien noir boitant sous une pluie de décembre. Nous, en tout cas, nous y avons séjourné. « Il faut qu'on aille dans cet hôtel », avait-elle dit. Elle, je ne sais même pas son nom. J'ai vécu plusieurs mois avec elle, mais j'ignore son nom. Je ne sais rien de concret sur elle, sinon qu'elle faisait partie d'un club très fermé de call girl, un club qui n'accepte pour membres que des personnalités reconnues, une prostituée de luxe en somme. Ensuite, elle avait disparu, me laissant tout seul. Et l'homme mouton m'avait averti de sa disparition. « Elle est partie, tu sais. » Voilà ce qu'il était venu me dire, l'homme mouton. Il savait bien, lui, qu'elle devait partir. Moi aussi, je comprends maintenant. Elle, son but était uniquement de me conduire ici. C'était son destin. Et c'est à ça que je pense maintenant en regardant les gouttes de pluie. Au destin. Méditant sur son existence, le narrateur évoque un autre compagnon qui a compté pour lui. Enfant unique, Haruki Murakami a grandi entouré de livres et de chats, auquel il voue une véritable adoration. Son œuvre est peuplée de ces créatures mystérieuses qui semblent connectées avec l'au-delà. Dans son célèbre roman « Kafka sur le rivage », l'animal est même doué de paroles. Mais revenons au narrateur de « Danse, danse, danse ». Après son divorce, un autre événement a marqué pour lui l'année 1979. S'il tente d'évoquer cette période avec détachement, le jeune homme n'échappe pas à l'émotion que suscite soudain la banale absurdité de la vie. Un beau matin, en me levant, je le trouvais roulé en boule dans un coin de la cuisine, mort. Peut-être qu'il était mort sans s'en rendre compte lui-même. Son corps refroidi était raide comme un poulet rôti. Son poil semblait bien plus sale que de son vivant. Ce chat s'appelait Sardine, et sa vie n'avait pas été un exemple de bonheur. Il observait toujours les humains d'un air inquiet, comme s'il se demandait ce qu'il allait encore perdre. Je n'ai connu aucun autre chat capable de cette expression dans le regard. En tout cas, il était mort. Une fois mort, on n'a plus rien à perdre. C'est le côté merveilleux de la mort. J'enveloppais son cadavre dans un sac de supermarché et le posais sur le siège arrière de la voiture. J'achetais une pelle à la droguerie voisine, puis je partis vers l'ouest, après avoir allumé la radio pour la première fois depuis bien longtemps. Le poste diffusait de la musique rock, en général sans grand intérêt. Fleetwood Mac, ABBA, les Bee Gees, Donna Summer, Eagles, les Commodores. Ce genre de musique s'élevait puis disparaissait comme des bulles. C'était un ennui. De la musique de grande consommation, bonne pour la poubelle, uniquement destinée à extorquer leur argent de poche aux adolescents. Je roulais depuis pas mal de temps en réfléchissant vaguement à ça. En cours de route, la radio diffusa Brown Sugar des Rolling Stones. Je me mis à sourire inconsciemment. Ça, au moins, c'était de la bonne musique, honnête. Brown Sugar, c'était à la mode en 1971, me semblait-il. Mais j'avais beau réfléchir, je n'en étais pas très sûr. Enfin, quelle importance, maintenant, 71 ou 72. Pourquoi fallait-il que je réfléchisse aussi sérieusement à des choses pareilles ? Je quittais l'autoroute quand le paysage fut devenu assez montagneux et je trouvais un bois où j'enterrais mon chat. Avec la pelle, je creusais un trou d'environ un mètre, y jetais sardines, toujours emballées dans son sac de supermarché, puis le recouvris de terre. Je m'adressais à lui pour la dernière fois. « Désolé, mon vieux, mais je ne vois que ça à faire. » Tout le temps que je creusais le trou, un petit oiseau siffla continuellement quelque part. Un petit oiseau au timbre flûté et haut perché. Quand ce fut fini, je rentrai à Tokyo par l'autoroute en écoutant à nouveau la radio. Je ne pensais à rien, me contentant d'écouter la musique. Après un morceau de Rod Stewart, le présentateur annonça une chanson du bon vieux temps. C'était « Born to Lose » de Ray Charles, une chanson triste. « Depuis que je suis né, j'ai toujours tout perdu », chantait Ray Charles. « Et maintenant, c'est toi que je vais perdre. » Ça me rendit vraiment triste d'écouter ça, à en pleurer. Ça m'arrive de temps en temps. Un doigt se pose par hasard sur mon cœur, au point le plus sensible. J'éteignis la radio, m'arrêtai à l'aire de service la plus proche, entrai dans le restaurant, commandai un sandwich et un café. Je me demandais ce que faisait mon chat en ce moment. Il devait faire vraiment noir là-bas. Je me rappelais le bruit de la terre tombant sur le sac du supermarché. Mais c'est comme ça qu'on fait, mon vieux sardine, pour toi et pour nous aussi. Je restais une bonne heure à contempler le gros sandwich végétarien dans mon assiette. Au bout d'une heure, une serveuse en uniforme violet vint me demander timidement si elle pouvait enlever l'assiette. Je hochai la tête. Bon, me dis-je, il est temps de retourner à la société.
Born to lose. I've lived my life in vain. Every dream has only brought me pain. All my life I've always been so blue. Born to lose, and now I'm losing you. Born to lose, it seems so hard to bear. When I wake and find that you're not there, you've grown tired, and now you say we're through. Born to lose, and now I'm losing.
Born to lose.
ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Retrouvons le narrateur 4 ans plus tard. Nous sommes en mars 1983. À force de rêver de l'hôtel du Dauphin, le jeune homme se résout à partir à la recherche de la femme qu'il a aimée. Mais arrivé à Sapporo, il ne reconnaît plus l'établissement, transformé en palace de luxe et rebaptisé The Dolphin Hotel. Il décide d'y séjourner un mois sous prétexte d'enquêter sur les financements troubles qui ont métamorphosé le quartier. À l'hôtel, il fait la connaissance d'une jolie réceptionniste qui lui rend visite un soir après son service. Lorsqu'il l'interroge sur l'ancien hôtel, elle lui fait part d'une étrange expérience qu'elle a vécue ici même dans les couloirs du nouveau palace. En virtuose, Murakami entraîne ses personnages et ses lecteurs sur la ligne de faille entre le réel et le fantastique. C'était en janvier, début janvier, juste un peu après le nouvel an. Ce jour-là, je travaillais tard le soir. J'ai dû finir aux alentours de minuit. Quand on termine à cette heure-là, il n'y a plus de tram. Je me suis changé et je suis monté au 16e par l'ascenseur de service. Je voulais aller à la salle de repos des employés. On a une salle pour nous au 16e, à l'écart des chambres des clients, et on peut faire un petit somme, boire un thé. J'y vais de temps en temps. La porte de l'ascenseur s'est ouverte et je suis sorti comme d'habitude sans penser à rien. Hein, ça arrive, non? Quand on va dans un endroit qu'on connaît bien, on avance sans penser à rien, machinalement. Donc je marchais rapidement, j'ai sûrement pensé à un petit quelque chose, mais je sais plus quoi. Et tout d'un coup, au milieu du couloir, je me suis aperçu qu'il faisait tout noir. Surprise, j'ai regardé derrière moi, la porte de l'ascenseur s'était déjà refermée. J'ai pensé à une panne d'électricité, mais c'était impossible. L'hôtel a son propre générateur, et en cas de panne, il prend automatiquement la relève. Je le sais, c'est déjà arrivé. Donc, il n'y avait aucune raison pour que le couloir soit plongé dans le noir comme ça. J'ai fait 2 ou 3 pas lentement, et alors, c'est bizarre, mes pas ne faisaient plus le même bruit que d'habitude. Je n'avais pas l'impression de marcher sur la même moquette que d'habitude. Elle était plus rêche, et l'air aussi était différent. Comment dire? Ça sentait un peu le moisi. Rien à voir avec l'atmosphère habituelle entièrement contrôlée par l'hôtel. L'air qu'il y avait à ce moment-là, en un mot, c'était de la vieille atmosphère, datant de plusieurs dizaines d'années. Une odeur comme celle que je respirais petite en ouvrant la vieille remise chez mon grand-père. Comme si tout un tas de vieilleries mélangées stagnaient là depuis des années. Je me suis retourné vers l'ascenseur. Même la lumière du bouton de l'ascenseur s'était éteinte. On n'y voyait plus rien. Et tout était mortellement calme. Alors là, j'ai eu peur. Normal, non? Seul dans le noir, ça fait peur. Mais avec en plus ce silence mortel, pas un bruit, un calme sinistre. J'ai repris courage et j'ai avancé lentement le long du mur. Il y a un tournant sur la droite. Et là, au bout du couloir, j'ai vu briller une lumière. En me rapprochant, je me suis aperçu que la lueur venait d'une porte entrouverte. Une drôle de porte. Je ne me rappelais pas l'avoir vue avant. Finalement, j'ai frappé un petit coup à la porte pour voir, un petit toc-toc presque inaudible. Mais le bruit a résonné bien plus fort que je m'y attendais, parce que les alentours étaient tellement silencieux. Il n'y a eu aucune réaction pendant environ 10 secondes, et pendant ces 10 secondes, je suis resté pétrifié devant la porte. Ensuite, j'ai entendu des espèces de froissements à l'intérieur, comment dire, comme si quelqu'un se relevait lourdement, portant des vêtements pesants. Ensuite, j'ai entendu des bruits de pas, quelqu'un avançait très lentement, en traînant des pieds, et le bruit se rapprochait peu à peu de la porte. J'étais terrorisé. Ça n'était pas un bruit humain. J'ai compris à ce moment-là ce que voulait dire l'expression « sentir un frisson glacé courir le long de son dos ». Je me suis enfui en courant à toutes jambes. J'ai même dû tomber 1 ou 2 fois. En courant, je ne pensais qu'à une chose, qu'est-ce que je ferais si l'ascenseur était en panne? Heureusement, l'ascenseur fonctionnait normalement. Il était arrêté au rez-de-chaussée. J'ai appuyé de toutes mes forces sur le bouton et il s'est mis à remonter, mais avec une lenteur. Il était incroyablement lent. 2e, 3e, 4e, je le suppliais mentalement. Dépêche-toi, je t'en prie. Mais ça servait à rien. Il a mis un temps incroyable à arriver. J'entendais toujours les bruits de pas. Il se rapprochait lentement, inexorablement. La chose était sortie de la pièce. Elle avançait dans le couloir vers moi. J'étais morte de peur. Non, ce n'était pas de la peur. J'avais l'estomac qui m'en remontait dans la gorge. La sueur me sortait par tous les pores. Une sueur glacée et fétide. Et des frissons, comme si un serpent rampait sur ma peau. L'ascenseur n'arrivait toujours pas. 7, 8, 9. Et les bruits de pas qui se rapprochaient toujours. Tout à coup, je me suis aperçu que la porte de l'ascenseur était ouverte. Avec la lumière nostalgique de ces ampoules électriques, je me suis littéralement effondré à l'intérieur. Et j'ai appuyé sur le bouton rez-de-chaussée en tremblant de tous mes membres. Quand je suis arrivé dans le hall d'entrée, toute pâle, claquant des dents à ne pas pouvoir parler, mes collègues étaient tous très étonnés. Le manager est arrivé, il m'a demandé ce que j'avais. Je lui ai expliqué en retenant mon souffle qu'il se passait des choses bizarres au 16e. Il a aussitôt appelé un employé et nous sommes montés là-haut tous les trois pour vérifier ce qui s'était passé. Mais au 16e, tout paraissait normal. Les lampes allumées, pas d'odeur suspecte. Nous sommes allés à la salle de repos interroger les gens qui s'y trouvaient. Ils étaient réveillés, n'avaient été témoins d'aucune panne. Nous avons fouillé l'étage dans les moindres recoins, mais tout était parfaitement normal. Comme si j'avais été ensorcelé. Quand nous sommes redescendus, le directeur m'a fait appeler dans son bureau. Je pensais qu'il allait me tenser vertement, mais pas du tout. Il m'a demandé de lui expliquer en détail ce qui m'était arrivé, alors je lui ai tout raconté, jusqu'au bruit de pas. Ça me paraissait ridicule, je me disais qu'il allait éclater de rire en me demandant si j'avais rêvé. Mais il n'a pas ri. Au contraire, il avait l'air extrêmement sérieux. Il m'a dit de ne parler de ça à personne. Fasciné par la distorsion du réel, le narrateur repart sur les traces de son amour perdu. Attisé par la curiosité, le jeune homme se met à errer dans l'hôtel. Ses pas le mènent au fameux 16e étage où il fait la même expérience que son ami réceptionniste. Dans le noir lui viennent d'étranges fantasmes. Il repense à Kiki, la call girl qu'il avait aimée 4 ans auparavant. Il l'imagine dans les bras d'un ami d'enfance, un grand séducteur dont il enviait les conquêtes. Ce garçon était devenu acteur, une star adulée, vivant dans un autre monde inaccessible. Au bout du couloir sombre, le narrateur retrouve ensuite un personnage qu'il connaît bien pour l'avoir déjà rencontré dans le passé. Il s'agit de l'homme mouton, un mystérieux sage qui lui conseille de rester connecté. Retrouvons notre héros quelques jours plus tard. Dans un état de confusion, il sort se promener en ville dans le quartier qu'il avait fréquenté avec Kiki. Ce jour-là, engourdi par la neige et le froid, notre héros cherche un endroit où se réchauffer. Il n'est pas au bout de ses surprises. J'aperçus un cinéma de l'autre côté de la rue. Un cinéma plutôt minable. Mais ce ne serait pas si mal de me réchauffer. Je regardais les affiches pour voir ce qu'il jouait. Il y avait 2 films japonais à la suite et l'un d'eux était « Amour sans espoir », celui où jouait mon ancien camarade de classe. Allons bon. Comme je l'avais imaginé, mon ami jouait un beau professeur de sciences aux longues jambes. L'héroïne était amoureuse de lui. Amoureuse à tomber, évanouie dès qu'elle l'apercevait, comme d'habitude. Un truc de style déjà vu. Même moi, j'aurais pu faire un film pareil. Le vrai nom de mon ami était Ryoshi Gotanda, mais évidemment, il avait un pseudonyme bien ronflant pour le cinéma. Le film était nul, le metteur en scène dénué de tout talent, la moitié des répliques d'une puérilité honteuse. Des scènes époustouflantes de bêtises se succédaient interminablement. Gotanda avait beau s'évertuer à jouer son rôle le mieux possible, il parvenait seulement à surnager au milieu de la débâcle générale. J'avais de la peine pour lui. Il faisait mal à regarder. Mais en y réfléchissant, il me semblait qu'il avait toujours eu une vie qui faisait mal à regarder en un sens. À un moment, il y eut une scène d'amour. Un dimanche matin, l'héroïne se rendait chez Gotanda et elle le trouvait au lit avec une fille. Tiens, tiens, c'est exactement la scène que j'avais imaginée. Comme prévu, même au lit, Gotanda était doux et prévenant. S'ensuivait une scène de sexe bien propre. Des aisselles qui avaient l'air de sentir bon, des cheveux savamment emmêlés par l'amour. Il caressait le dos nu d'une femme. La caméra pivota brusquement pour filmer le visage de la fille. Je retins mon souffle. C'était Kiki. Je sentis mon corps se tétaniser sur le fauteuil. Dans le rang derrière moi, une bouteille roula bruyamment par terre. C'était Kiki. Comme dans cette scène que j'avais imaginée dans le couloir, dans le noir, avant de rencontrer l'homme mouton, Kiki couchait pour de bon avec Gotanda. « Je suis connecté », me dis-je. C'était le seul moment du film où Kiki apparaissait. Je regardais fixement et attentivement tout le reste du film sans me préoccuper de l'intrigue, mais Kiki ne réapparut pas. Elle avait rencontré Gotanda quelque part, couchait avec lui, apparaissait dans une seule et unique scène de sa vie avant de disparaître définitivement. Voilà le genre de rôle qu'elle avait. Un peu le rôle qu'elle avait joué dans ma vie, en somme. Elle était apparue, était montée sur scène un moment, avant de disparaître à nouveau. Le film terminé, la lumière revint dans la salle, je restais à regarder fixement l'écran blanc. Je me demandais si c'était ça la réalité. Une fois le film fini, on pouvait penser qu'il n'avait jamais existé. Que faisait Kiki dans le film? Et avec Gotanda en plus. C'était ridicule. Je m'étais sûrement trompé d'aiguillage, je m'étais trompé de voix. La réalité et mon imagination avaient dû s'en mêler quelque part, mais c'était bien Kiki. C'était elle, sans erreur possible. Elle avait les mêmes expressions dans mes bras, ses lèvres tremblaient comme ça, elle poussait les mêmes soupirs. Ce n'était pas de la comédie, c'était vraiment comme ça. Pourtant, là, il s'agissait d'un film. Je ne comprenais plus. Plus le temps passait, moins j'arrivais à croire mes souvenirs. C'était peut-être simplement une illusion. Une heure et demie plus tard, je retournais au cinéma revoir Amour sans espoir. Un dimanche matin, quand Tanda était au lit, une fille dans les bras, vue de dos, la caméra tournait, on voyait enfin son visage, et c'était Kiki, sans erreur possible. L'héroïne entrait, retenait son souffle, fermait les yeux, partait en courant. Gotanda restait stupéfait. Kiki disait « Non mais qu'est-ce qui te prend ?» Fin de la scène. La même chose se répétait exactement. Pourtant, je n'arrivais pas à y croire. Je pensais qu'il y avait une erreur quelque part. Pourquoi Kiki couchait-elle avec Gotanda ? Le lendemain, je retournais au cinéma et, figé sur mon siège, revis une fois de plus « Amour sans espoir ». Terriblement énervé, j'attendais sans bouger que la scène avec Kiki arrive. Enfin, elle arriva. Un dimanche matin, Gotanda était au lit, une fille dans les bras, vue de dos. La caméra tournait, on voyait enfin son visage. Et c'était Kiki, sans erreur possible. L'héroïne entrait, retenait son souffle, fermait les yeux, partait en courant. Gotanda restait stupéfait. Kiki disait « Non mais qu'est-ce qui te prend ?» Fin de la scène. Je soupirais dans le noir. « Ok, c'est bien la réalité. Pas d'erreur possible. » J'étais connecté. Jouant de la frontière entre réalité et fiction, Murakami entraîne son héros vers d'autres horizons. Passons quelques chapitres pendant lesquels le narrateur retourne chez lui à Tokyo et où il reprend contact avec Gotanda, son ancien camarade de classe. Ensemble, ils passent du bon temps, se remémorent le passé. Une nuit, Gotanda invite son ami à partager la compagnie d'une autre call girl, Mei, qui disparaît aussi mystérieusement que Kiki. Inquiété par la police, le narrateur accepte une invitation inespérée. Il part en vacances à Hawaï, en compagnie d'une adolescente de 13 ans, Yuki, rencontrée à l'hôtel du Dauphin. Fille d'artiste célèbre qui la néglige, elle s'attache à notre héros qui joue auprès d'elle le rôle du grand frère protecteur. Découvrons cette scène digne d'un décor de cinéma, comme un clin d'œil à un des chefs-d'œuvre de la littérature américaine que Murakami apprécie particulièrement. Voici le portrait de Yuki, qui n'est pas sans rappeler une certaine Lolita. Et maintenant, venons-en aux nouvelles suivantes. Je venais de prononcer cette phrase tout haut, allongée sur la plage de Fort Delessy, les yeux levés vers le ciel bleu, les feuilles de cocotier et les mouettes. Yuki était allongée à côté de moi. Un nouveau morceau d'Eric Clapton s'écoulait d'un énorme radiocassette posé à côté de nous. Yuki portait un petit bikini vert olive et était enduite d'huile de noix de coco jusqu'au bout des doigts de pied. Elle était aussi luisante qu'un mince bébé dauphin. Un jeune Polynésien passa devant nous, une planche de surf sous le bras. Les rues embaumaient les fleurs, les fruits et la crème solaire. Hawaï. Et maintenant, venons-en aux nouvelles suivantes. Il s'est passé beaucoup de choses. De nombreux personnages sont apparus sur scène. Les décors ont changé les uns après les autres. Récemment encore, je marchais sous la neige dans les rues de Sapporo. Et maintenant, allongé sur une plage à Honolulu, je regarde le ciel. Tel est le cours des événements. Voilà ce qui m'est arrivé à force de vouloir dénouer les nœuds de mon existence. J'en suis arrivé là, en dansant en rythme sur la musique. Mais est-ce que je danse bien ? Ce n'est pas si mal, me dis-je. Peut-être pas si bien que ça non plus, mais ce n'est pas si mal. C'est ça le système. Les pieds se mettent en mouvement, et les pas continuent d'eux-mêmes. Et maintenant, me voici à Honolulu. C'est l'heure de la pause. Je décompressais, je me décontractais. Yuki, elle aussi, donnait des signes de changement très nets. Il n'y avait plus ni angoisse ni colère sur son visage. Maintenant, allongée sur la plage, les cheveux relevés sur le sommet du crâne, une paire de lunettes enfoncées sur le nez, revêtue d'un bikini, on ne savait plus très bien quel âge lui donner. Elle avait encore un corps d'enfant, mais sa nouvelle attitude la faisait vraiment paraître plus adulte que son âge. Ses bras et ses jambes fins et élancés, loin de paraître fragiles, vibraient d'une force inconnue. Quand elle s'étirait de tout son long, on avait l'impression qu'elle s'étendait jusqu'au ciel. Et elle en était sans doute au stade le plus dynamique de sa croissance et devenait adulte, rapidement, violemment. Nous nous enduisions réciproquement d'huile solaire. Quand ce fut à mon tour de lui masser le dos, elle se mit à gigoter comme si je la chatouillais. Sous ses cheveux relevés, on apercevait une nuque et une petite oreille blanche qui me firent sourire. De loin, allongée sur la plage, elle avait parfois un air d'une surprenante maturité, mais la ligne de sa nuque correspondait bien à son âge et gardait les traces de l'enfance. « C'est encore une gamine, » me dis-je. C'est étrange, mais la nuque d'une femme vieillit en même temps qu'elle. Je ne saurais ni expliquer pourquoi, ni dire clairement où réside la différence, mais une nuque de jeune fille ressemble à une nuque de jeune fille, tandis que la nuque d'une femme mûre indique la maturité. Ainsi, nous passâmes cette première journée hawaïenne à l'ombre des cocotiers à écouter le hit parade de la radio. Elle profita du soleil jusqu'à son dernier rayon. « Rentrons, lui dis-je alors que le soleil commençait à se coucher. » Elle acquiesça, mais au moment de se lever, resta un moment accroupie dans la même position, exactement comme si elle guettait la fin de cette première journée. Je roulais la natte, mis la radio sur mon épaule. « Ne t'en fais pas, il y a encore demain. Et quand demain sera fini, il y aura encore un autre jour. Ne pense pas, petite fille, dis-je. » Elle leva la tête vers moi et me sourit. Je lui tendis la main. Elle la prit pour s'aider à se relever. C'était vraiment l'heure de la pause. Contre toute attente, c'est à Honolulu que les événements vont bientôt rattraper le narrateur. Après 2 semaines de répit, le jeune homme se retrouve violemment reconnecté, malgré lui, à l'objet de sa quête. Une quête qui ressemble à une course en avant, une fuite, pour échapper à la confusion intérieure qui l'anime. Dans le labyrinthe des rues surpeuplées, le voici confronté au sentiment de la perte et de l'impuissance, comme un avant-goût de la mort. Cette plongée dans l'au-delà est la métaphore de nos peurs inconscientes, comme le dit Murakami. Je cite « Lorsque j'écris, je descends toujours dans les recoins les plus sombres de mon être, puis j'observe les paysages qui s'y trouvent et je les décris. » C'est à ce moment-là que ça arriva. À ce moment-là, quelque chose me frappa, oui, comme un coup violent à l'intérieur du crâne. Mais à cet instant-là, je ne compris pas ce qui venait de m'arriver. Mû par une sorte de réflexe, j'appuyais sur la pédale de frein. Je venais de voir quelque chose, là, maintenant, quelque chose de très important. Kiki. Je venais de voir Kiki à l'instant, ici, à Honolulu, downtown, au milieu des cinémas porno et des sex shops. Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'elle faisait là, mais je venais de la croiser. J'en aurais juré. Elle était passée à pied à côté de ma voiture, à portée de main. « Je reviens tout de suite, » dis-je en sautant de la voiture. « Eh, attends, tu vas pas me laisser toute seule dans un quartier pareil ?» Mais je courais déjà sur la chaussée sans m'occuper de Yuki. Il fallait que je retrouve Kiki. Je ne savais même pas pourquoi. Je m'élançais le long des rues, suivant le flot de la foule. Pendant que je courais, les détails de ses vêtements me revinrent en mémoire. Une robe bleue, un sac en bandoulière blanc. Je débouchais sur une grande avenue. Le nombre des passants augmentait soudain, entravant ma course. Une femme énorme qui devait faire 3 fois le poids de Kiki me bloquait le chemin. Kiki continuait à marcher droit devant elle, sans se retourner. Quand je fus parvenu à 20 mètres d'elle, elle tourna subitement au coin gauche d'une rue. Je tournais au même endroit et débouchais dans une étroite ruelle déserte. Je ne voyais plus Kiki. Essoufflé, je m'arrêtais pour la chercher des yeux. Kiki, où es-tu ? Tu as disparu. En fumée. « Kiki !» hurlai-je. Elle n'avait pas disparu. L'ombre d'un gros camion de livraison me l'avait cachée un instant. Apparemment, elle m'avait entendu, car elle se retourna légèrement dans ma direction. Évidemment, j'étais relativement loin d'elle. C'était le soir, la rue était sombre. Mais j'aurais juré que c'était elle, tout comme elle savait que c'était moi. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle pénétra dans l'un des immeubles de bureaux qui bordait la rue. J'y entrai à mon tour, environ 20 secondes après elle. Trop tard. La porte de l'ascenseur au fond du hall d'entrée venait de se refermer. Je regardais l'aiguille qui s'immobilisa sur le chiffre 8. Je me précipitais dans l'escalier situé juste à côté. Je déboulais dans le couloir du 8e étage. Rien, personne. Je longeai le couloir et vis un alignement de portes banales. Pas un son. C'était aussi silencieux qu'un champ de ruines. Puis j'entendis le bruit. Un claquement de hauts talons sur un sol dur, résonnant avec une ampleur étrange sous la haute voûte de ce couloir désert. Soudain, il me semblait que j'errais, comme dans un labyrinthe, à l'intérieur du corps fossilisé d'un énorme organisme préhistorique. Je ne sais pas par quel mystère un trou s'était creusé dans le temps et j'étais tombé au fond du gouffre. Enfin, je me rendis compte que le claquement des chaussures provenait du bout du couloir de droite. Je me dirigeais vers la dernière porte. Je me demandais soudain si je n'étais pas en train de rêver. Mais non, impossible. Il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond dans tout ça. Mais pourtant, c'était la réalité. Je frappai à la porte. Le bruit de talons hauts s'arrêta aussitôt. Un silence total recouvrit à nouveau les environs, comme si le dernier claquement de talons avait été aspiré par l'atmosphère du lieu. La porte n'était pas fermée à clé et j'entrai. C'était un petit réduit plongé dans la pénombre. Je découvris un escalier et montai 4 à 4. L'escalier était très raide. Ce devait être un passage de secours qui ne servait pratiquement jamais. Une fois en haut, je trouvai une nouvelle porte. Elle s'ouvrit dans un petit grincement. La pièce était sombre, mais je discernais vaguement un espace assez vaste aménagé en entrepôt. Très haut, au milieu du plafond, je distinguais quelques lucarnes laissant filtrer un peu de lumière de la lune. Passant la tête à l'intérieur de cette inquiétante obscurité, je hurlais « Kiki !» Puis j'attendis, en vain, une réponse. J'ignore combien de temps je restais ainsi, immobile, l'oreille aux aguets, ouvrant grand les yeux dans l'obscurité. Puis j'avançais lentement vers le milieu de la pièce. Je distinguais quelques meubles entassés dans les coins. Je devinais dans cette masse grise un canapé, des chaises, une table. Sous l'étrange éclairage, ces meubles n'avaient pas l'air de vrais meubles. Tout ici manquait de réalité. Il me semblait avoir des espèces de housses blanches froissées sur les chaises et le canapé. Mais en m'approchant, je m'aperçus que ce n'était pas du tissu, mais des os. Deux squelettes humains étaient assis côte à côte sur le canapé. Des squelettes complets, auxquels pas une articulation ne manquait. L'un de grande taille, l'autre plus petit, assis dans la même position, comme s'ils étaient encore vivants, comme s'ils étaient morts sans s'en rendre compte. Ils semblaient sourire. Je ne sais pas pourquoi je n'en ressentais aucune peur. Toute vie semblait arrêtée ici, immobilisée dans son élan. Je fis le tour de la pièce. Sur chaque chaise reposait un squelette, six en tout, dans une posture très naturelle. Je fermai les yeux. Kiki, que signifie tout cela ? Qu'est-ce que tu veux me montrer ? J'entendis à nouveau les talons claquer. Cette fois, cela venait d'ailleurs, mais je ne savais pas de quelle direction. J'avais l'impression que ce bruit venait de nulle part. Cette pièce semblait pourtant être la dernière. D'ici, on ne pouvait aller nulle part. Les bruits de pas continuèrent un moment, puis s'éteignirent, suivis par un silence oppressant. Kiki avait à nouveau disparu. Dénouons à présent l'un des fils de l'histoire, car dans ce roman labyrinthique, les intrigues sont autant de portes d'entrée dans des mondes parallèles, communiquant entre la réalité et le rêve, la vie et la mort. Pourquoi Kiki apparaît-elle au narrateur, quel que soit le lieu où il se trouve ? Pourquoi le jeune homme s'entiche-t-il d'une adolescente qui s'avère avoir des pouvoirs de médium ? Voici l'une des scènes où chaque personnage semble enfin trouver son rôle. Nous sommes à nouveau au cinéma, dans la ville de Tokyo. À la demande de Yuki, notre héros a emmené la jeune fille voir le fameux film « Amour sans espoir » avec l'acteur Gotanda. Tout semble se répéter avec une précision infernale, jusqu'à ce qu'un bug vienne bousculer la réalité. Je pris une inspiration profonde et me concentrai sur l'écran. Toujours cette scène. Je fermai les yeux, revis à nouveau la lumière de ce dimanche matin, les doigts de Gotanda, le dos de Kiki. Il me semblait que cette scène existait quelque part, indépendamment de tout, dans un monde à elle. Et ce monde flottait dans le vide, entre l'espace et le temps. Je m'aperçus soudain que Yuki était penchée en avant, le front sur le siège devant elle, la tête baissée. Elle ne faisait pas un bruit. Et avait croisé les bras sur sa poitrine comme si elle avait froid. Elle ne bougeait plus, semblait même ne plus respirer. On l'aurait crue morte, gelée sur place. « Ça va ?» demandai-je. « Pas trop », répondit-elle d'une voix étranglée. « Sortons. Tu veux marcher ?» Elle hocha la tête. Je pris son bras tendu et durci, l'entraînai hors du cinéma, tandis que derrière nous résonnait la voix de Gotanda. Dehors, une pluie fine tombait. Un vent venu de la mer apportait un léger parfum de marée. Serrant son coude pour la soutenir, je marchais lentement avec Yuki vers la voiture. Je l'aidai à s'asseoir sur le siège avant à côté de moi, ouvris la fenêtre. Yuki posa un bras sur le montant, appuya le menton dessus, le visage à moitié en dehors. À la voir ainsi de dos, elle semblait si fragile. Pourquoi avait-elle l'air si vulnérable ? Était-ce simplement parce que moi j'étais un adulte ? Si imparfait que je sois, j'avais trouvé le moyen de survivre en ce monde. Et elle semblait encore tout ignorer de cet art. Nous roulâmes vers la mer. Indifférents à la pluie, nous restâmes assis dans le sable un bon moment, appuyés contre la digue, tendant l'oreille au crissement de pneus sur l'autoroute plus haut. « Tu n'as pas froid ?»« Non, ça va. C'est agréable d'être un peu mouillé par la pluie. » Des pêcheurs s'étaient installés au bord du Pacifique. Je me demandais ce qu'on pouvait bien trouver d'intéressant à la pêche. Enfin, tous les goûts sont dans la nature. On pouvait aussi trouver du plaisir à rester assis des heures sous la pluie au bord de la mer, en compagnie d'une petite fille nerveuse. « Ton ami, tu sais ?» fit Yuki d'une petite voix étrangement tendue. « Mon ami ?»« Oui, celui du film, tu sais. »« Ah oui, il s'appelle Gotanda de son vrai nom. Il a tué cette fille. » Je plissai les yeux et la regardai. avait l'air exténué. Je ne comprenais pas un mot de ce qu'elle disait. La fille avec qui il couche un dimanche matin. Mais je n'avais pas encore compris. J'avais l'esprit en pleine confusion. Une force erronée venait de s'introduire dans la situation, grâce à quoi le cours des événements venait d'être dérangé. Mais je n'arrivais pas à comprendre. Je souris à moitié inconsciemment. « Mais non, personne ne meurt dans ce film, tu as dû te tromper quelque part. »«
Je ne te parle pas du film. » C'est pour de bon dans la réalité qu'elle a été tuée, je le sais.
En prononçant ces derniers mots, elle m'avait violemment serré le bras.
J'ai eu peur, tu sais. J'avais l'impression qu'on venait de m'enfoncer quelque chose de très lourd dans l'estomac. J'avais si mal que je ne pouvais plus respirer.
Je sais, je te dis. Ton ami a tué cette fille.
C'est vrai, je t'assure.
Comprenant enfin de quoi elle parlait, mon échine se glaça instantanément. Je devins incapable de prononcer un mot. Tendu, je regardais intensément Yuki à travers la bruine. Mais qu'est-ce que je dois faire, bon sang ? Tout est fatalement, irrémédiablement tordu. Toute cette histoire m'échappe complètement. Voici pour conclure cette émission l'ultime épilogue du roman. Au-delà de l'intrigue policière, le récit de Murakami est une réflexion existentielle sur la solitude des individus, pris dans les filets d'un monde en apparence normal, où s'ouvrent soudain des gouffres de violence, d'angoisse et d'hallucination. Comme dans toutes les histoires depuis les mythes ancestraux, et n'oublions pas que Murakami a d'abord fait des études sur le théâtre grec, ce n'est pas le dénouement qui compte, mais le cheminement intérieur. Retrouvons le narrateur à la fin de sa danse dionysiaque. Après s'être délivré de l'obsession de Kiki qui réclamait justice, le voici qui trouve réconfort dans les bras de la belle réceptionniste de l'hôtel du Dauphin. Après avoir erré longtemps entre l'adolescence et l'âge adulte, il s'est enfin reconnecté à lui-même, laissant libre cours à ses émotions.
Elle dormait paisiblement dans mes bras. Moi, j'étais complètement réveillé. J'enveloppais étroitement ma compagne de mes bras et me mis à pleurer sans bruit. Je pleurais sur tout ce que j'avais perdu et sur tout ce que je n'avais pas encore perdu. Mais en fait, je versais à peine quelques larmes. Le corps de Yumiyoshi était doux dans mes bras. Son souffle tiède ponctuait le temps qui passe ponctuait la réalité. Enfin, le jour se leva tranquillement. Je soulevai la tête et regardai les aiguilles de mon réveil marquer lentement le temps de la réalité. Elles avançaient doucement, tout doucement. Yumiyoshi respirait au creux de mes bras. Son souffle tiède humectait ma peau. C'est la réalité. Je suis enfin dans la réalité. Et c'est ici que je m'arrête. Haruki Murakami.
Nous, les écrivains professionnels, qui faisons des mots notre spécialité, nous avons un rôle important à jouer dans cette mission collective de grande ampleur. Nous devons associer éthique et valeurs nouvelles à des mots nouveaux. Nous devons inventer de nouvelles histoires vibrantes et les laisser germer. Nous pourrons ainsi partager ces histoires. Elles doivent avoir un rythme qui peut entraîner les gens, comme les chants des paysans pendant le semis. C'est de cette manière que nous avons pu reconstruire un Japon complètement détruit par la guerre. Aujourd'hui, nous devons revenir à ce point de départ.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Philippe Redin. Elle a été préparée par Estelle Gap, Leila Kourousselikoua, Perrine Malinge, Claire Tesser et Fanny Leroy. Bonne soirée et à la semaine prochaine.